Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle chronique de l'Alep. Nous nous sommes arrêtés 3 semaines mais nous sommes de retour toujours avec Muriel et Marion qui sont là aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bien, très bien. Et toi ?
Très bien, super, en pleine forme. Je vous laisse attaquer ?
On y va.
Allez, on vous écoute.
Alors, il y a 3 semaines, on avait parlé des chants d'oiseaux. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les chants d'oiseaux. Et Muriel, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'on peut trouver chez nous en Lozère comme chant, enfin, ce qu'on peut entendre ?
Oui, alors quand on parle de chants d'oiseaux, on pense souvent aux passereaux territoriaux, en fait, qui vivent en couple, comme le pinson, le rouge-gorge ou le merle, qui sont vraiment communs chez nous. Mais voilà, il y a d'autres espèces aussi de passereaux, mais qui vivent en colonie et qui défendent qu'un espace très réduit, proche du nid, comme les hirondelles ou les moineaux. Ceux-là, on les entend un peu moins.
D'accord. Et pourquoi ils seraient un peu moins bavards, on les entendrait moins ?
Bah parce qu'en fait, les chants, ils sont principalement liés au territoire, et ceux-là sont plus faciles à entendre et à identifier. Au printemps, en gros, c'est le mâle le plus souvent qui s'installe sur un territoire qu'il a jugé bon, qu'il a jugé intéressant.
Oh, et qu'est-ce que c'est qu'un bon territoire intéressant ?
Alors un bon territoire, en fait, c'est un espace qui peut être de taille très très variable. C'est environ 200 mètres carrés pour un rouge-gorge. C'est un territoire où le couple il doit pouvoir trouver des ressources nécessaires à la survie des futurs jeunes. Du coup, il faut qu'il y ait au moins un site de nidification protégé. Il faut qu'il y ait des abris potentiels contre les prédateurs. On peut penser surtout aux chats par rapport à ça. Et surtout des ressources alimentaires suffisantes pour le couple et ses jeunes. Donc les petits passereaux ont tout intérêt à défendre un territoire quand ils l'ont trouvé, puisque la survie des jeunes et donc de l'espèce en dépend.
Et donc pour ceux qui n'ont pas de territoire, comment ça se passe ?
Bah, ces individus-là, ils vont errer sur des sites qui ne sont pas très favorables et qui ils vont se faire chasser par les propriétaires déjà installés. Donc leurs chances de se reproduire sont très faibles.
Ok. Et alors dans tout ça, le champ...
À quoi ça sert ?
À quoi ça sert ?
Eh bien, il va avoir plusieurs fonctions. La première fonction, c'est liée à la possession donc, de ce territoire. En s'installant sur les lieux en janvier-février, le mâle va chanter pour dire que cet espace, c'est chez lui, il est déjà occupé. Cette information est à destination de ses congénères qui vont prendre cette information à la lettre ou pas. À cette période, en fait, quand tous les mâles sont en train de conquérir un territoire, on peut observer des prises de bec. En gros, c'est des luttes, des batailles où les plumes peuvent voler, ils peuvent s'infliger des blessures physiques. Mais cette période est assez courte, elle se calme assez rapidement. Ça se calme assez rapidement. Et ensuite, c'est que le chant qui va permettre de défendre le territoire, de maintenir la pression sur les congénères, ce qui est quand même beaucoup plus économique que de se battre à chaque fois qu'on voit un autre oiseau. Et donc, il va passer beaucoup de temps pour défendre son droit de propriété, en fait.
Et le chant, en fait, il sert à montrer qu'on est présent et qu'on est peut-être techniquement plus fort que la personne qui tenterait de venir...
Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, la seconde fonction, c'est que la qualité du chant va renseigner les congénères sur les aptitudes du chanteur. Donc, c'est-à-dire que s'il est fort et vigoureux, ça veut dire que l'oiseau est plutôt en bonne forme physique, on va éviter d'aller lui chercher des noises. Par contre, s'il est plutôt faible et pas très assuré, bah, l'individu il est peut-être jeune ou malade, et donc là, un voisin n'hésitera pas à aller le titiller pour essayer de lui prendre son territoire. Par contre, pour que ça marche, en gros, il faut que le chant soit assez audible. Il faut qu'il aille jusqu'aux limites du territoire, mais même au-delà. Et c'est pour ça que souvent, les petits oiseaux ont un gros coffre. Enfin, on est assez impressionné de voir la puissance en fait, de la voix, du son que peut émettre un troglodyte qui est tout petit ou un rouge-gorge. Mais c'est bien que le but, c'est de défendre son territoire et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir survivre, en fait. Par exemple, il y a certains oiseaux qui reprennent plus d'un millier de fois par jour, tout le temps, la même phrase, pour répéter que c'est chez lui.
vraiment en boucle, quoi. C'est le passe-temps de la journée.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est leur moyen de survie, le territoire. Donc c'est super important, ouais. Après, vas-y.
Par rapport aux femelles, les femelles chantent. Comment ça se passe?
Alors, les femelles peuvent chanter parfois avec le mâle. Et là, on a des chants en duo. On en parlait la dernière fois. Mais en fait, la troisième fonction du chant, c'est lié à la rencontre des partenaires. Donc, en fait, comme dans plein d'espèces animales, c'est la femelle qui choisit son partenaire. Mmh. Et chez nos oiseaux chanteurs, c'est la qualité du chant qui sera un critère de choix. Comme Roméo qui chante sous les fenêtres de Juliette, sous le balcon. Mais c'est vraiment un bon critère, comme ça peut être aussi le critère du plumage ou de la qualité du territoire. Mais en tout cas, un chant clair, puissant et répété est critère de bon état physique, donc potentiellement d'un territoire de qualité et bien défendu. Et ensuite, la quatrième fonction, c'est lié à la physiologie de la reproduction. C'est-à-dire qu'une femelle qui va être stimulée, enfin qui va beaucoup entendre le chant du mâle, va être stimulée d'un point de vue hormonal et donc va libérer plus d'ovules et va être plus féconde, en fait. Donc ça entraîne une descendance plus nombreuse et plus précoce. Donc dans tous les cas, en fait, le chant est lié, de près ou de loin, à la survie des jeunes.
D'accord. Et du coup, ici en Lozère, là, près de chez nous, qu'est-ce qu'on peut entendre?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais on peut faire un petit tour d'horizon des chants les plus communs qu'on peut entendre dans nos jardins ou nos campagnes. Alors, on va écouter pour ça un premier chant, c'est le chant de la mésange charbonnière, qui est assez simple et qui, en gros, alors peut être très variable, mais elle a un chant qui est assez typique, qui est deux syllabes qui se répètent souvent, qui font tuti 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 tuti. On vous le passe maintenant. Deuxième chant que on peut entendre souvent plutôt seul, à la tombée du jour, qui est plus flûté. Et plus varié, c'est le chant du merle. Le pouillot vélos, lui, il arrive au printemps et quand on l'entend, c'est bon signe, c'est signe que les beaux jours vont pas tarder. On l'appelle aussi le compteur d'écu et on peut traduire son chant par chip chap chip chap chip chip chap chip chap.
On n'a pas besoin de passer les sons, en fait. Tu le fais tellement bien.
Ah oui, oui. en voici un maintenant que tout le monde connaît, mais qui peut parfois tromper un peu. Certains peuvent le confondre avec une chouette ou un hibou, alors qu'il chante plutôt dans la journée, parfois à la fin de la journée. C'est le coucou, qui répète ces deux syllabes bien en rythme. Et puis pour finir, un oiseau assez territorial qu'on a tous aussi chez nous, mais qu'on entend plus souvent qu'on ne voit, c'est le pinson des arbres, qui a un chant un peu plus long, un peu plus complexe, mais avec des trilles qui finit toujours par une note basse puis une note élevée. Donc une petite astuce, moi ce qui me permet de le reconnaître, c'est de guetter la fin des phrases.
Et du coup, on vient d'entendre le pinson, donc j'ai envie de te poser une question. On connaît tous l'expression « gai comme un pinson ». Est-ce que le chant peut exprimer justement l'humeur de l'oiseau ? Enfin, est-ce que c'est...
Alors c'est vrai, peut-être qu'on est plus joyeux quand on entend les oiseaux, peut-être que le chant du pinson nous donne l'impression qu'il est plus gai. En tout cas, personne n'a encore prouvé que le chant exprimait la gaieté de l'oiseau. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions qu'utilisent les chants d'oiseaux. Donc suite à cette chronique, je vous invite à voler de vos propres ailes, à profiter des beaux jours pour bâiller un peu aux corneilles. N'hésitez pas à faire un peu le pied de grue dans votre jardin, et même si vous êtes un peu tête de linotte, avec de l'attention et de l'entraînement, vous pourrez reconnaître les chants d'oiseaux et être fier comme un pan.
Magnifique.
Belle conclusion, Muriel. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chouette chronique nature.
Oui, merci. À bientôt.
À bientôt.
À la semaine prochaine.